Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3,
c'est fac.
Ça part ici.
Bienvenue à la VG Mission. Je suis super contente de vous retrouver encore une fois cette semaine. Et comme la semaine passée, j'ai la chance d'avoir avec moi ma collègue Maria.
Bonsoir tout le monde. Merci Daphné.
Bien, merci à toi. Maria, cette semaine, elle m'a envoyé un mémoire de maîtrise super intéressant. C'est de Alexia Renard, qui est maintenant une étudiante au doctorat à l'Université de Montréal. Oui, si je me trompe pas.
Oui, oui exactement, en sciences politiques maintenant.
C'est vraiment super. Puis son mémoire de maîtrise, elle l'a fait sur le véganisme au Québec, cartographie d'un mouvement, parce que elle trouvait que c'était pas assez répertorié. Quand on devient dans le fond végé ou vegan, c'est pas juste côté alimentation de refuser de consommer des produits d'origine animale, mais ça compte aussi l'environnement, la santé, l'engagement pour les animaux et beaucoup de dimensions éthiques et sociales. Donc, elle met tout ça en perspective, elle raconte l'histoire du mouvement véganiste au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui se fait maintenant? Elle fait une liste complète de tous les organismes qu'on peut retrouver maintenant et c'est super intéressant parce que je pense que souvent on se perd là-dedans. Puis au moins maintenant, on peut avoir comme une belle cartographie de tout ça pour nous aider.
Non, c'est ça. Je pense que ça peut être super inspirant là, quand on devient végé, végane, de savoir qui est dans la même direction, qui partage ces valeurs-là, puis voir les possibilités soit d'implication ou d'événements, de conférences auxquelles on peut assister pour continuer le cheminement et s'améliorer de plus en plus là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé aujourd'hui à vous parler de la cartographie d'Alexia.
Oui, puis il y a aussi vraiment la proportion des recherches sur Google concernant le véganisme a vraiment grimpé au cours des dernières années. Le nombre d'articles a grimpé, les mémoires de maîtrise ont grimpé, que ce soit en faveur ou même en défaveur du véganisme. Ben l'intérêt est grandissant. Fait que je vais laisser Maria, là, si tu veux parler de l'histoire du véganisme.
Oui, donc, bon, si on remonte au 19e siècle en Europe, je vous dirais que c'est le moment où il y a eu les premières sociétés protectrices des animaux qui ont été fondées, particulièrement du côté anglo-saxon. Donc, on avait à Londres particulièrement l'équivalent de la SPCA. Et au Canada, plus précisément, au début, en fait, c'était surtout des hommes blancs de la classe moyenne et de la classe haute. Je veux dire, des médecins, des politiciens, des écrivains.
Ça a changé un peu, hein? Je pense que maintenant, les politiciens, médecins, ils n'ont pas les mêmes ambitions qu'autrefois.
Non, c'est ça. Puis maintenant, il y a beaucoup plus de femmes aussi dans le mouvement. Ouais. Il y a toute une évolution super intéressante. Mais une spécificité au Canada aussi, c'est le fait qu'on est dans un pays où il y a l'hiver, où il y a une grande dépendance aux ressources animales, ouais, que ce soit pour l'événement, pour les sports.
Oui, puis il y a vraiment moyen, là, peut-être moins au début des années 2000, là, mais maintenant, il y a des moyens, même si on était au Canada puis qu'on a l'hiver, il y a des moyens de s'équiper cruelty-free, si je veux dire, là, sans cruauté animale, et de manger autre chose que des protéines animales. Il faut juste, justement, s'équiper en ressources. Puis, cette mémoire de maîtrise-là, justement, participe à s'équiper en ressources.
Oui, puis on trouvait ça intéressant aussi, vu qu'on est une association universitaire, de voir comment on peut lier des intérêts pour des mouvements sociaux comme la cause animale, le véganisme, à nos études. Donc, Alexia l'a fait, mais nous aussi, Daphné et moi, on trouve ça intéressant.
Ouais.
À travers des travaux scolaires, souvent, on a de la liberté dans le choix de sujet, de s'intéresser à ça pour voir, nous, comment on peut se positionner là-dedans, puis peut-être faire une différence d'une certaine façon.
Oui, puis il y a même beaucoup de cours maintenant là, qui se donnent dans les universités qui parlent de la cause animale, que ce soit des cours en environnement, et des cours écoféministes qui relient ça aussi au mouvement vegan. Il y a des cours même directement sur l'éthique animale. Et ça, maintenant, c'est dans toutes les universités. Fait que c'est quelque chose qui est super accessible pour pas mal tous les étudiants de participer un peu aujourd'hui. Là.
Mm-hmm, vraiment, là, si ça vous intéresse, souvent dans les bacs, il y a des cours qu'on peut choisir dans d'autres programmes, d'autres facultés. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches dans votre université. Puis parfois, il y a des professeurs plus spécialisés mm-hmm. dans ces enjeux-là qui sont souvent très ouverts à avoir des conversations. Donc, notre petit clin d'œil là, au monde académique ce soir. Puis sinon, pour venir un peu côté historique au Québec, en fait, dans fin des années 1990, végétalisme, véganisme, c'est des mots qu'on entendait très peu.
Ouais.
C'était un peu obscur, on dirait. En fait, le tout premier article dans les médias qui parlait de véganisme, c'était en 1993. Et c'était pour parler de la création d'un restaurant végétarien. Mais ce qu'on a trouvé cocasse, Daphné et moi, c'est que la vision des véganes était vraiment très stéréotypée.
Oui. C'était vraiment les gros hippies là, avec les headbands, les cheveux longs, des libertariens un peu là, qui acceptaient au mouvement. Mais bon, à cette heure, ça prend pas mal tous les visages. Là, on a fait le saut. Ça fait une couple d'années là, que Georges Larac est sorti végétalien. Puis on avait vraiment fait le saut parce que c'est la première fois qu'on voyait une figure masculine qu'on considérait comme forte sportive et tout devenir végétalien, autant pour la cause que pour la santé. Fait que je pense que ça allait comme vraiment débalancer le stéréotype des gens végétaliens.
Non, exact. Là, t'as un joueur de hockey super connu qui devient vegan puis qui dit « je suis capable de m'entraîner » puis même de surpasser mes performances en étant vegan. C'est super intéressant. Puis il a aussi été le narrateur du documentaire « Terrien » en 2010. Donc,
super bon documentaire.
Ouais, des figures clés très importantes. Mais sinon, c'est vraiment plus dans les années 2010 que le mouvement vegan là, s'enracine au Québec. Bon, déjà, il faut attendre à 2013 pour le premier article dans les médias, dans la presse, qui aborde vraiment le véganisme là, sous son angle plus éthique animal ou végétalisme radical, comme certains l'appellent aussi. Puis sinon, il y a en 2011, Valérie Giroux, qui est une universitaire qui a fait sa thèse sur l'antispécisme. Donc, si ça vous intéresse, on vous invite vraiment à consulter son travail. Puis Élise Dessaunier qui a publié un livre aussi. Bon, à part de tout ça, il y a le Festival vegan de Montréal, première édition en 2014, qui se veut vraiment un rassemblement autant de commerces locaux qui offrent des produits véganes que de gens, des conférenciers, des gens avec une expertise dans le domaine qui viennent partager les connaissances. Et les deux dernières années, on l'a eu en version virtuelle, mais ça aussi, il y a une page Facebook où on peut les suivre puis avoir accès à tout plein de ressources très inspirantes quand on se lance dans le monde du végétarisme ou du véganisme.
Oui, vraiment. Puis c'est un événement qui marche bien aussi parce que justement, c'est pas juste consacré aux personnes qui sont déjà végé ou véganes. C'est vraiment pour faire connaître notre mode de vie. Il y a pas de jugement. Je pense qu'on dit souvent c'est super important pour nous. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que les gens qui sont dans cette journée-là sont vraiment là pour partager leurs connaissances et non pour juger ou essayer de faire une quelconque morale à ceux qui consomment encore de la viande. Fait que non, c'est super. Là, sauf si on vous invite à aller voir cette page-là.
Oui, vraiment.
Plein de ressources.
Puis tous les événements aussi, je pense que c'est des super bons moyens de faire découvrir à notre entourage un peu notre alimentation parce que quand on commence, on ne sait pas tout le temps comment en parler, comment aborder plein d'enjeux, mais là, c'est l'occasion de faire découvrir aussi à souvent des dégustations, tout ça. Donc, un peu aujourd'hui aussi, on veut vous parler de ce qui existe, des initiatives qui se font là et auxquelles on peut s'intéresser. Mm-hmm. Vraiment. Puis sinon, on peut vous parler un peu de quelques associations qui existent. Bon, à Montréal, il y a l'Association végétarienne de Montréal, très connue. En Estrie, il y en a une aussi, Association végétarienne de l'Estrie. Allez chercher sur Facebook si ça vous intéresse.
Les gens partagent leurs recettes, leurs idées. Ouais. C'est vraiment un beau lieu d'entraide. Et on aimerait ça peut-être éventuellement même les contacter pour faire ressortir cette association-là. Je pense qu'elle a eu un peu de misère au cours des dernières années. Puis là, on aimerait ça comme refaire sortir ça pour dépasser le cadre universitaire et espérer faire bouger les choses un peu en Estrie.
Non, c'est ça. T'sais, on pense qu'il y a vraiment une communauté qui est grande, mais qui se connaît pas nécessairement. Donc, de faire des liens, d'organiser des événements, ça pourrait être vraiment des belles activités là à venir pour notre association. On vous en donnera des nouvelles si ça se concrétise à l'hiver prochain.
Sinon, on a, à la fin des années 2000, je pense, la grande rencontre VG.
Oui.
Que tu avais lu, là, un rassemblement annuel, démonstration culinaire, conférence, kiosque, qui a été justement lancé en 2007 par l'Association végétarienne de Montréal. Puis je pense que c'est encore une chose aujourd'hui qui se passe à chaque année, si je me trompe pas, là.
Je suis pas certaine, mais oui, des grands rassemblements comme ça. Il y a aussi le défi vegan 21 jours. Parfois, ceux qui savent pas comment se lancer dans une alimentation végé, végane, mais ça, c'est Élie Dessounier, elle a écrit un livre avec plein de ressources, mais c'est aussi, ça revient à différents moments, là, d'année en année, de faire des défis. Et bon, on vous donne un peu un aperçu aussi. La session prochaine, on est en train de collaborer avec d'autres universités, ouais, pour créer un défi qui va s'appeler le défi planétarien, mais c'est un terme là, qui vient en fait défaire les étiquettes qu'on peut donner à des types d'alimentation. Mais vraiment, le but de ces défis-là, ça va être d'encourager les gens à avoir une alimentation plus respectueuse de l'environnement, d'eux-mêmes, en donnant un outil de mesure d'empreinte écologique. Donc, c'est un projet sur lequel on travaille, puis ça nous ferait plaisir là, que vous joigniez au défi.
Oui, on va donner une nouvelle justement sur nos pages bientôt, en fait, là, après au début de la session d'hiver. Et ce qui est le fun, justement, c'est qu'en collaborant avec d'autres universités, ben on dépasse vraiment le cadre universitaire, puis que c'est pas juste les étudiants et les étudiantes des universités qui peuvent y participer, mais c'est vraiment tout le monde. Même chose, l'année passée, on avait fait un défi VG, où ce qu'on invitait les gens qui sont pas nécessairement déjà VG à nous montrer leurs photos, à participer. On avait eu des prix, on avait reçu justement en conférence Élise Désolier, qui, en passant, la directrice générale de la spéciale de Montréal, femme super intéressante. Comme Marie-Elle l'a dit, elle a écrit des livres, c'était super, super bon à lire. Et juste même à suivre sur les réseaux sociaux, là, elle partage tout le temps des recettes super intéressantes. Elle montre pourquoi qu'elle est devenue végane, pourquoi est-ce qu'elle adhère à ce mouvement-là. Puis je pense que elle mérite vraiment d'être connue. Là.
Oui, vraiment, là, plein de belles ressources intéressantes à consulter de ce côté-là. Puis en fait, Alexa Renard, là, dont on vous parle aussi, celle qui a écrit le mémoire sur la cartographie au Québec, elle a également publié un livre. Et on ne l'a pas lu personnellement, mais on a vraiment envie de le découvrir. Il nous semble super intéressant. Puis il s'appelle « Que veulent les véganes? » Donc, une collaboration avec une autre auteure. Et donc, vraiment, il y a beaucoup de littérature accessible sur le mouvement vegan.
Oui, puis à voir son mémoire de maîtrise, on peut voir que son écriture est vraiment comme inclusive, et pas moralisatrice. Puis, qu'est-ce qu'elle veut, c'est vraiment de faire connaître pourquoi ce mouvement-là n'a pas été assez connu, pourquoi maintenant il se fait de plus en plus connaître. Et son livre part vraiment de la philosophie, la grecque ancienne, tu sais, comme je pense que son sous-titre, c'est « De Platon au mouvement de spécis » ou quelque chose dans ce genre-là. Fait qu'elle va vraiment voir, autant dans la Grèce antique, pourquoi Platon, qui était pas, qui croyait par exemple que les animaux avaient pas de conscience, puis qu'on était vraiment séparés d'eux, au mouvement antispéciste, pourquoi qu'on pense comme ça, et pourquoi que si on consomme autant de viande sans avoir la conscience que ben c'est un animal dans notre assiette, c'est parce que ça vient, comme c'est quasiment génétique rendu là, ça vient vraiment de nos connaissances qu'on a depuis toujours.
Ouais, exactement. Puis c'est intéressant parce que maintenant, elle s'intéresse aux jeunes véganes dans les tranches de 12 à 17 ans pour voir comment se passe leur processus et tout ça. Donc, elle va écrire sa thèse de doctorat là-dessus. Et donc, vraiment, une initiative.
Puis si vous connaissez justement là, quelqu'un en 12 et 17 ans qui est, je sais pas si c'est végé ou juste
c'est
végane.
Végane, c'est juste végane.
Qui est végane, ça pourrait être super intéressant d'aller voir, là, de retrouver Alexia Renard en marquant, je sais pas, Alexia Renard UDM. Puis vous allez pouvoir voir ou inscrire la personne. C'est vraiment le fun qu'on voit des témoignages de gens plus jeunes souvent parce que je pense qu'on devient végé, végane quand qu'on quitte chez nos parents habituellement, là, quand on est plus vieux. Mais il y en a plein qui ont en 12 puis 17 ans. Fait que si vous en connaissez, ben
allez-y,
c'est une super belle opportunité pour eux. Là.
Vraiment, il y a une nouvelle génération aussi qui sont dès un plus jeune âge là, engagés là, avec des mouvements sociaux.
Oui, à cause de leurs parents surtout. Là, je pense
aussi.
Qu'il y a beaucoup de... Ben, en fait, notre communauté s'agrandit. Puis dans notre communauté, ben, il y en a qui font des enfants. Puis il y a assez le plus possible qu'ils soient végé-végan aussi. Fait que ça s'en vient de plus en plus jeune, puis c'est correct aussi. Mm-hmm. Fait que sur ça, on va prendre une petite pause publicitaire. Je vous introduis une chanson de Jérôme 50. Okay.
Comme ça qu'on s'améliore. Faut pas travailler trop fort pour monter dans la hiérarchie. Faut pas travailler trop fort pour monter dans la hiérarchie. Ouais ben, mes chums capotent. En fait, ils trouvent ça drôle de nous voir courir après une carotte. Ça doit goûter les clés de vos propres menottes. Mais nous, on n'a pas les yeux plus grands que la panse. La méritocratie nous fait tomber sans connaissance. Car l'ascension n'est pas sans souffrance lorsqu'on s'élève dans le non-sens. Plutôt paradoxal, étant donné ces militants passifs et immobiles qui rêvent d'un renversement du modèle social. C'est une révolution tranquille. Faut pas travailler trop fort pour monter dans la hiérarchie.
Retour de pause. Merci Maria d'avoir expliqué la cartographie du mouvement vegan avant. C'est super intéressant. Puis justement, sur Élise Desauniers, je pense qu'on aurait pu le dire puis qu'on oubliait un peu, là, elle a sorti en 2013 une synthèse sur l'éthique alimentaire qui a eu vraiment un gros succès, qui s'appelle Vache à lait, qui, dans le fond, détruit, qui parle des mythes de l'industrie laitière. Et honnêtement, ça choque vraiment beaucoup. Moi qui est végétarienne et non végétalienne, ça me fait vraiment arrêter de consommer des produits laitiers. Là, pas complètement, mais je pense que c'est ça vraiment, ça peut vraiment avoir un impact important. Puis même qu'on devrait enseigner ça, puis détruire ces mythes-là, là, plus, mettons, par exemple, à l'école ou plus que dans notre vie personnelle.
Oui, vraiment, souvent, les discussions sont plus axées sur la viande directement, puis c'est ce qu'on voit le plus. Tandis que le lait, bon, on le prend pour acquis, puis on a une belle vision dans notre tête là, de la vache à la ferme. Mais en réalité, il y a...
Toute souriante, là.
Exact. Sur les publicités et tout ça, mais est-ce qu'on s'intéresse à ce qui se passe réellement dans les industries de l'élevage et tout ça? Donc, ça vaut la peine là, de lire
ça. Oui, puis c'est pas très long, là, c'est vraiment court, là, puis c'est juste côté connaissance générale que je pense que c'est important de savoir ça. Je pense aussi qu'on se dit que, bon, ben, on tue pas nécessairement la vache quand on consomme des produits laitiers, mais c'est un peu ça qu'on fait, là, sans la tuer directement, on la tue indirectement, puis c'est vraiment intéressant. Sinon, c'est sûr qu'Élie, c'est une personne qui nous inspire vraiment beaucoup, qu'on trouve vraiment inspirante, mais il y a plein d'autres personnes, il y a plein d'autres gens comme nous, comme Elisabeth Océanique, si vous voulez aller voir sur... elle est sur Instagram, elle n'est pas sur d'autres plateformes, mais c'est une personne qui est super intéressante. C'est une personne de Sherbrooke, Elisabeth?
Je suis pas certaine, mais...
Mais du coin. Puis elle est devenue activiste végane. Elle travaille maintenant en collaboration avec l'organisme PETA et elle partage plein de choses super intéressantes, que ce soit des statistiques, des... marques de vêtements qui exploitent pas les animaux, tous les documentaires qui sortent, tous les livres qui sortent, qui traitent de l'éthique animale ou environnementale, elle les lit, elle nous donne son feedback, ses pensées, qu'est-ce qu'elle en pense. Puis c'est vraiment intéressant. J'ai tellement appris juste en la suivant sur les réseaux sociaux. Elle fait des posts sur tout, là, comme par exemple à l'Halloween, elle a parlé des bonbons qui sont pas véganes. Souvent, en fait, on pense pas du tout à ça, là, que les bonbons, c'est pas vegan, mais ça ne l'est pas. Puis elle va aller donner des ressources, quels bonbons qui coûtent pas cher, qui sont retrouvables partout, puis que tu peux consommer sans avoir des produits. L'alcool, on a des produits animaux. On a des produits animaux dans pas mal tous les alcools. Elle va donner des références. Fait que, bref.
Oui, c'est super intéressant. Puis à Sherbrooke aussi, il y a Stéphanie Monfait, qu'on trouve très inspirante. Elle a un blog qui s'appelle Une bouchée de vie. Donc ça, surtout pour l'inspiration de recettes, de modes de vie respectueux des animaux, on vous conseille de la suivre. Et si c'est plus la nutrition qui vous intéresse, à Coral Loomis, qui est nutritionniste ici à Sherbrooke, elle est super accessible autant sur les réseaux sociaux que sur son site web avec plein d'idées. Donc, vraiment des belles personnes à aller suivre.
D'ailleurs, elle vient de sortir un nouveau livre, là, Coral Loomis, là, un nouveau livre sur l'alimentation récemment.
Ah oui?
Ça fait pas super longtemps, mais elle a sorti son tome 2 ou 3, je suis pas certaine. Puis elle fait maintenant une émission avec Stéphane Bellavance.
Okay.
Sur Moi, je mange, qui est sur... Je me rappelle plus quelle chaîne, mais qui est à tous les soirs à 17h, puis t'es avec Stéphane Bellavance, puis avec connaître l'alimentation végétale. Enfin, je trouve ça vraiment cool de voir que l'alimentation végétale a de plus en plus d'importance.
Ouais, non, c'est super. Tu m'apprends des choses d'amener ce soir en même temps que tout le monde. C'est super intéressant, puis vraiment, on a plein de belles ressources à découvrir, même quand ça fait déjà des années qu'on est vegan comme moi.
Oui, puis il faut partager aussi les bonnes nouvelles, même si ce n'est pas nécessairement aux alentours de nous. J'ai appris ça aujourd'hui. En fait, c'est sorti aujourd'hui sur les réseaux que le deuxième restaurant le plus populaire au monde, selon le concours du World Best Restaurant, qui est un restaurant à Copenhague, qui a 3 Michelin stars, puis qui est connu depuis super longtemps apparemment, qui est devenu vegan cette semaine, juste pour évoluer avec les gens. Fait qu'il a coupé comme tous les produits animaliers de son menu. Puis ça, vraiment, je pense que c'est une belle cause de voir qu'on peut être un restaurant chic, huppé, populaire, mais sans cruauté animale. je veux pas sonner grave, mais c'est un peu ça. Puis sinon, il y a 4 documentaires qui sont sortis qui sont super intéressants. Il y a The Dark Hobby, qui est disponible sur YouTube, Apple TV et Google Play, qui dans le fond, qui est un exposé sur le côté un peu sombre des aquariums. Il y a vraiment un... On dirait quasiment que c'est un peu de la mafia, là, mais il y a vraiment comme un great dark qui se passe là, avec les animaux d'aquarium. Puis c'est quand même assez, assez grave. Là. C'est des choses qu'on sait pas, qu'on voit pas, mais ça l'exploite vraiment comme tous les fonds marins. Puis en même temps, ça fait beaucoup d'argent au gouvernement. Fait que ça montre vraiment qu'est-ce qui se passe. Puis ça suit aussi, dans le fond, des scientifiques et des conservationnistes hawaïens qui, eux autres, ben, sont prêts à tout pour protéger la vie marine. Fait que c'est beau à voir en même temps. Sinon, il y a un documentaire produit par Leonardo DiCaprio, parce que bon, on a appris dans les dernières années que c'était quelqu'un qui était vraiment dans la cause environnementale. Je sais pas s'il consomme encore des produits animaliers, mais je sais que
côté... Je pense qu'il est vegan. Mais il dit publiquement.
Ah oui, c'est ça. Mais côté environnemental, là, c'est vraiment comme un de nos militants, je pense, les plus mondialement connus. Et il a produit justement un documentaire là, qui s'appelle The Loneliest Whale, qui, dans le fond, suit une baleine qui appelle 52. Je sais pas pourquoi qu'il appelle comme ça, mais ils suivent cette baleine-là, puis ça serait en fait la baleine la plus seule au monde. Puis c'est comme... C'est cute, là. C'est des petites larmes tout le long, puis on pleure.
Non, c'est ça. Je pense que le 52, ça fait référence aux fréquences du son qu'elle fait quand elle essaie d'appeler là, les autres animaux.
Ouais, puis ça serait comme la baleine qui fait comme les plus grosses fréquences. Ouais. Mais en fait, ça démontrait que ça serait comme qu'elle sentirait vraiment seule. Fait qu'en tout cas, c'est super. C'est triste, mais c'est cute à voir en même temps.
Vraiment. Puis le monde marin, c'en est un qu'on connaît peu. J'ai l'impression que c'est lointain de nous, mais il y a tellement à découvrir. Puis il y a aussi des organisations plus spécialisées sur la protection des océans, des fonds marins, comme Sea Shepherd, qui est mondial, mais qui est présente aussi au Québec.
Oui, on a un gars de Sea Shepherd qui est venu nous voir au début de l'année parce qu'ils sont même rendus à Sherbrooke. C'est une super belle organisme qui est super intéressante à connaître, dans le fond, qui travaille de proche avec Greenpeace. Fait que c'est quand même une grosse organisation, mais là, qui s'expand partout, même au Québec. Fait que c'est super le fun à voir. Sinon, il y a Eating Our Way to Extinction. Ça, c'est un peu plus dark, là, mais c'est sur YouTube, Google Play, iTunes, Apple TV. Ça montre comme plusieurs autres documentaires, l'effet dévastateur de notre agriculture sur les animaux, la santé et même sur les peuples autochtones. Parce qu'on ne sait pas, mais ça les touche vraiment de près. Puis je pense que c'est un des seuls documentaires qui parle de l'agriculture, qui montre en fait l'effet sur les peuples autochtones. Et le quatrième et le dernier documentaire qui est sorti récemment, c'est Fantastic Bungee. Ça, c'est un peu plus léger parce que ça parle du bien-être des champignons sur notre santé, sur ça a des effets aussi médicaux. Et dans ce documentaire-là, ça montre aussi tout ce que la Terre peut nous apporter côté médecine et santé. Fait que ça, c'est vraiment plus léger, mais en fait, c'est surtout pour montrer qu'on peut faire beaucoup de choses avec les ressources que la Terre nous donne sans nécessairement l'exploiter.
Mm-hmm.
Fait que je pense que ça conclut pour aujourd'hui. Merci, puis on a hâte de vous retrouver pour une autre émission. Bonne soirée!
Merci et bonne soirée!